Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Attaque d'un convoi de ravitaillement à gaz Kindé dans le Sahel. L'armée évoque des dégâts à humains sans plus de précision. L'unité d'action syndicale était à la primature hier. Elle dénonce l'insécurité, la vie chère et surtout l'augmentation des salaires des plus hautes autorités. Et puis discours du Premier ministre malien à la tribune de l'ONU, l'ex-premier ministre Moussa Mara regrette le ton belliqueux de l'actuel Premier ministre Abdoulaye Maïga. Discours du Premier ministre malien, justement, nous en parlons avec notre invité du jour, Oumarou Kualaga, expert en relations internationales. Entretien à suivre enfin à deux jours. Bonjour mesdames et messieurs, merci à vous pour la fidélité à Oméga. Un convoi de ravitaillement des populations à destination de Djibo dans le Sahel a été attaqué hier par des hommes armés. L'armée qui a donné l'information ne précise pas de bilan, mais parle plutôt de dégâts humains et matériels. Un convoi de ravitaillement des populations escorté par une unité du 14e RIA à la destination de Djibo a été la cible d'une attaque terroriste ce jour 26 septembre 2022 près de la localité de Gazguindé dans la province du Soum, peut-on lire dans le communiqué. Selon l'état-major, l'attaque a malheureusement causé des dégâts humains et matériels. Des renforts ont été déployés dans la zone pour apporter assistance aux victimes et sécuriser la zone, indique le communiqué, précisant qu'un bilan complet sera établi dès que possible. Et pendant ce temps, le Premier ministre recevait hier l'UAS, l'unité d'action syndicale. Les représentants des structures syndicales sont allés faire part de leurs préoccupations. Il s'agit essentiellement de l'insécurité, la vie chère et surtout de l'augmentation des salaires du président du FASO et des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, mais aussi des avantages accordés aux membres de l'Assemblée législative de transition. Inoussa Nana est le porte-parole de l'UAS.
Nous avons toujours demandé à ce qu'on puisse réduire les trains de vie de l'État. Et sur le régime passé, nous avons toujours lutté. Et cette fois-ci, on voit qu'ils sont allés au double. Et on voit qu'il n'y a rien qui est fait pour les travailleurs, également pour la population. Sur la question de l'insécurité, nous avons notamment demandé à avoir une situation sur le rapport de l'INATA. Nous avons souhaité à ce qu'on puisse publier ce rapport-là. Vous avez constaté aussi en tant qu'il y a des citernes, des camions citernes qui ont disparu. Sur cette question également, nous sommes inquiétés. Donc nous avons demandé à ce qu'on puisse nous donner des informations là-dessus. En tout cas, ils ont réagi, quand bien même ça ne nous a pas très convaincus. Ils ont donné une réaction pour dire que bon, c'est une situation qui était là et qu'il fallait certainement réajuster. Selon les informations qu'ils nous ont données, c'est une situation qu'ils sont venus trouver, ça devait poursuivre. Et ils nous ont dit qu'ils assument la responsabilité. Mais nous, en ce qui nous concerne, c'est que vraiment on constate que si ça concerne la vie chère, si c'est lié à l'inflation, pourquoi est-ce que c'est les membres du gouvernement seulement qui en sont bénéficiaires? Et les travailleurs, et la population, qu'est-ce qu'elle fait à ces niveaux?
Et nous restons dans le monde syndical. Après 24 heures de grève, l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de la SECNA, dont est membre le syndicat des contrôleurs aériens du Burkina, a suspendu son mot d'ordre de grève samedi dernier, et ce pour 10 jours. Cette suspension, selon le secrétaire général du syndicat des contrôleurs aériens du Burkina, Fulbert Bembamba, est de donner de nouveau une chance au dialogue pour la satisfaction de leur plateforme revendicative. Dans cette interview, il revient sur les raisons de la suspension de la grève qu'il avait entamée vendredi dernier. Nous l'écoutons au micro de Rabiatou Kongo.
Le premier préavis de grève avait été déposé le 25 juin pour une exécution à partir du 25 août. Heureusement, avec l'implication des plus hautes autorités au plan national, plan aussi de l'Union africaine, nous avons suspendu ce premier mot d'ordre de grève. Il y a eu des négociations qui ont échoué. Face à l'inertie, nous avons réactivé le premier préavis de grève qui devait s'exécuter à partir du 23. Nous avons effectivement commencé l'exécution de la grève le 23, mais le 24, nous avons suspendu encore une fois après l'intervention donc des autorités. Cette fois-ci, il y a des dates qui sont données, c'est ça qui nous rassure. Nous Nous tenons à dire que les autorités nationales du Burkina se sont aussi impliquées à travers le ministère en charge du transport. Nous, le comité des ministres de la SECNA, nous avons vu le communiqué qui convoque ce comité pour le 17 octobre. Donc nous espérons que les autorités vont effectivement donner des orientations claires à M. le directeur général pour qu'il puisse se pencher sur notre plateforme. Le premier round des négociations qui se sont tenues à Dakar a échoué. À ce stade, le dossier est plutôt entre les mains du comité des ministres qui va examiner. Nous savons que dans le domaine de l'aviation civile, quelles sont les conséquences d'une grève? Pas une grève à l'échelle d'un pays, c'est une grève donc à l'échelle de 17 pays membres. Ça fait 16 millions de kilomètres carrés qui sont gérés par la SECNA, de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Nous avons volontairement mis la durée de préavis longue. Le premier, c'était 30 jours pour effectivement espérer que les autorités vont réagir. Voilà. Mais c'est notre corps défendant qu'on a constaté qu'il n'y avait pas de réaction satisfaisante que nous l'avons mis à exécution. Nous ne sommes pas en position de faiblesse parce qu'en 24 heures de grève, le résultat, nous sommes plutôt en position de force. Mais nous ne comptons pas seulement sur cette force, nous comptons vraiment sur nos autorités. Nous demandons qu'ils donnent des orientations à M. le directeur général. Nous avons suspendu notre préavis de grève jusqu'au 20 octobre. Donc nous aviserons après cette date.
À l'instant, donc, c'est le secrétaire général du syndicat des contrôleurs aériens du Burkina, Fulbert Bembamba. Une délégation de la police nationale a rendu visite hier à Omega Media. La délégation a présenté ses condoléances à la famille professionnelle, puis à la famille biologique du directeur général de Omega Media. Il vous souviendra que Paul Miki Ouramba est décédé le samedi 10 septembre dernier. Le point de cette visite avec Marina Traoré.
Les hommages à l'endroit de Paul Miki Ouramba se poursuivent. Cette délégation de la police nationale dit être venue au nom de la direction générale de l'institution témoigner sa compassion au groupe Omega Media et à l'ensemble de son personnel. Des mots d'encouragement, de soutien et de réconfort accueillis par Omega Media dans cette douloureuse épreuve. Après les locaux du groupe de presse, la délégation a mis le cap sur le domicile mortuaire. Là également, elle a réitéré ses profonds regrets et traduit sa solidarité à la famille biologique du défunt. Paul Miki Ouramba a vécu utile et nous gardons de lui l'image d'un partenaire infatigable de la police, toujours prêt à servir et à propager sa joie de vivre, dira Moumini Koudougou, porte-parole de la délégation de la police nationale.
Donc nous sommes venus témoigner notre compassion, notre sympathie à la famille de Paul Miki Ouramba. Nous sommes venus présenter nos condoléances à la famille d'un collaborateur. Il a beaucoup collaboré avec nous et avec son état d'esprit, sa joie de vivre, il ne peut pas passer inaperçu. Même s'il n'est pas là, il laisse vraiment beaucoup de souvenirs.
Pour Sylvestre Sommet, oncle du défunt, cette démarche de la police nationale est plus que réconfortante pour la famille et témoigne une fois de plus que Paul Miki Ouramba a su tisser des relations de qualité durant sa carrière professionnelle.
La police nationale fasse le déplacement pour présenter ses condoléances. Cela témoigne du fait que Miki avait des relations de travail, des relations particulière avec de toutes les professions que nous connaissons au Burkina. Et depuis les événements, nous constatons que tous les corps de métier avec qui il a eu à travailler, que ce soit à Ouaga, à Bobo et dans toutes les grandes villes du Burkina, nous envoient des messages de condoléances, de compassion et nous ne pouvons que les remercier.
Avant de prendre congé de la famille, la délégation de la police nationale a laissé un mot dans le livre de condoléances et remis une enveloppe financière en guise de soutien.
Hors de nos frontières, a fait 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Le secrétariat général des Nations Unies plaide pour une libération urgente de ces soldats ivoiriens. À travers un communiqué rendu public hier, il a appelé à une libération urgente de ces militaires. Khaled Ouedraogo nous revient sur ce communiqué.
Le secrétariat général des Nations Unies a exprimé lundi dans un sa grave préoccupation face à la situation des militaires ivoiriens détenus depuis le 10 juillet à Bamako. Il appelle donc à une libération urgente de ses militaires et cela dans l'esprit des relations fraternelles entre les peuples de Côte d'Ivoire et du Mali. Le secrétariat général des Nations Unies de rappeler dans son communiqué qu'il souhaite le rétablissement de la confiance et la promotion d'un bon voisinage entre les deux pays. Lors d'une interview accordée à RFI et à France 24, Antonio Guterres avait affirmé catégoriquement que les militaires ivoiriens ne sont pas des mercenaires. Une sortie médiatique du secrétaire général des Nations Unies que le colonel Abdoulaye Maïga, premier ministre par intérim du Mali, a qualifié d'inopportune samedi dans son discours lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Vous vous exprimez sur l'affaire qui est une affaire bilatérale et judiciaire entre deux pays frères. C'est évident que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations Unies, avait martelé Abdoulaye Maïga. Sur les 49 soldats arrêtés, 3 soldats avaient été libérés le 3 septembre dernier dans le cadre d'un geste humanitaire sous l'égide de la médiation togolaise.
Samedi dernier n'est pas au goût de certaines personnalités maliennes. L'ancien premier ministre malien Moussa Mara a déploré hier le ton belliqueux employé donc par le premier ministre par l'espace sous-régional risque malheureusement de détériorer les relations de bon voisinage avec ces pays. Il estime que le temps consacré par les autorités de la transition à répondre aux commentaires aurait pu être mis à profit pour mettre en évidence les préoccupations concrètes, réelles et fortes des Maliens. L'opposition malienne n'a de son côté également à ses politiques du bureau politique national du parti si réagit. Pour lui, les propos tenus par Abdoulaye Maïga ne sont pas dans l'intérêt du Mali. Tenir des propos au mépris de tous les corps diplomatiques, les étages, ce n'est pas une politique qui honore notre pays. Ce n'est pas dans l'intérêt du Mali, a-t-il lancé.
La revue de presse.
Plusieurs sujets font la une des quotidiens de ce jour. Le journal Le Quotidien revient sur les agressions de civils par des militaires à Ouagadougou. À l'international malienne, oublie que s'attaquer à un chef d'État, même personnellement, revient à s'attaquer à son peuple. Et le naufrage du Djola. La revue de presse de ce jour est signée Valérie Guéret.
Agression de civils par des militaires à Ouagadougou, la discipline légendaire de l'armée piétinée, s'exclame le journal Le Quotidien. Pour ce quotidien burkinabé, comment cela peut être une réalité si dans le même temps, des militaires se donnent le droit d'agresser des civils? Car selon notre confrère du journal Le Quotidien, l'armée a toujours demandé aide dans la lutte contre le terrorisme. À l'international, plusieurs sujets interpellaient, à dire vrai, les autorités de la transition politique au Mali et en Guinée ne sont pas du tout dans une logique de coopération franche avec les pays de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Si en Guinée le ton est encore plus mesuré pour l'instant, cela n'est pas le cas au Mali, mentionne notre confrère de l'Express du Faso qui pense que les autorités maliennes oublient que s'attaquer à un chef d'État, même personnellement, revient à s'attaquer à son peuple. Aussi, s'intéresser au Niger, à Mauritanie, en Côte d'Ivoire, en un mot, à tout ce qui se passe dans la Sourée. Hier, 26 septembre, les 20 années du naufrage du Djola, un deuil difficile, tout en rappelant les faits. 26 septembre 2002, 26 septembre, paraissait le Djola au large des côtes gambiennes, emportant le flot des vagues tumultueuses de la mer, près de 2000 passagers. 20 ans après ce drame, qui reste l'une des plus grandes catastrophes maritimes au monde, les fantômes des disparus continuent de hanter leurs familles qui n'ont du reste que leurs yeux pour pleurer depuis que la justice s'est montrée incapable de démêler les chevaux d'habilité des uns et des autres. Aujourd'hui, au Faso renchérit et souligne que nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à faire le deuil pour absence de corps ou de reste. Comment peut-on alors fermer les yeux sur de tels actes tout en sachant que c'est la vie d'innocentes personnes qui étaient aussi mises en danger, s'interroge le journal des 1200 logements qui pense qu'il appartient à chaque citoyen de comprendre qu'il est le premier responsable de sa vie. Car en tout état de cause, on ne vit qu'une fois, à chacun selon son destin.
Omega Sport.
La finale de la deuxième édition du tournoi Maracana Petit Poteau s'est jouée dimanche après-midi. C'était au quartier de la zone 1 à Ouagadougou. Cette deuxième édition a vu une dizaine d'équipes s'affronter, le tout dans le fair play et la cohésion sociale. L'objectif des promoteurs était de renforcer la cohésion et offrir un autre cadre d'expression aux jeunes, Mumuni Yaro.
La première édition du tournoi Cohésion sociale a été jouée en 2020. Après un report l'an passé, la deuxième a débuté le 4 septembre pour refermer ses portes ce dimanche 25 septembre. Des 16 équipes au départ, c'est l'équipe appelée Ban Ki-moon FC qui a battu Baghdad FC en finale pendant les tirs au but 1-0. Une compétition que l'association Petit Poteau du Kadiogo, organisatrice, demande de soutenir. Guy Guigma, promoteur des Petits Poteaux au Burkina Faso.
2021, nous avons participé à la Coupe d'Afrique des Nations, le Petit Poteau qui a eu lieu à Abidjan au Palais des Sports de Trècheville. Ce qui a fait ce petit retard de la deuxième édition. Mais en fin d'année, on aura encore un grand tournoi. Et en 2023, on aura un championnat national. On aura la deuxième édition de la Coupe d'Afrique des Nations encore en Côte d'Ivoire où le Burkina participera. Ce qu'on peut demander à nos autorités, c'est de pouvoir accompagner l'association Petit Poteau du Kadiogo. Parce qu'au regard de la première édition, c'est sous fonds propres que nous avons participé à cette édition-là.
Cette finale a également connu le soutien et les encouragements du ministère des Sports. Saouna Zoua, représentant du directeur général des Sports.
Le tout début est toujours difficile. Il faut se battre, il faut continuer à croire à ce que nous faisons. Qu'un jour, il y aura un championnat digne de ce nom de Petit Poteau. Nous allons voir vraiment de très belles techniques comme ce que nous avons vu ce soir. À l'image surtout des Ivoiriens que nous voyons sur les réseaux sociaux.
Les équipes finalistes et les meilleurs acteurs ont été récompensés. Cette discipline, les petits poteaux fait son bonhomme de chemin. En 2021, le Burkina Faso a gagné la CAN à Abidjan en Côte d'Ivoire.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Au niveau régional et international, le Mali adopte une posture de plus en plus décomplexée en matière de coopération. C'est ce que pense notre invité, Oumarou Kolaga, expert en relations internationales. Au micro de Brigitte Oda, il analyse pour nous le discours du Premier ministre malien par intérim Abdoulaye Maïga à la tribune de l'ONU.
Paul Oumarou Kolaga, bonjour.
Bonjour Madame Yoda.
Aujourd'hui, nous parlons du discours du Premier ministre par intérim du Mali à la tribune des Nations Unies samedi dernier. Dans la même veine que Choguel Maïga, le colonel Abdoulaye Maïga a tiré à bout portant sur presque tout le monde, surtout sur la France, l'accusant d'avoir agressé à de maintes reprises son pays. De façon générale, qu'est-ce que vous pensez du temps et du langage utilisé ?
Pour ce qui a été entendu, on a beaucoup plus l'impression que c'était une partenaire, à la fois au niveau bilatéral, mais également au niveau multilatéral. Et chacun y a pris pour son grade. Déjà, au niveau de la région, les pays voisins immédiats du Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, pour ne citer que ces deux exemples, en passant par la CEDEAO, l'organisation sous-régionale, et bien sûr, l'organisation universelle avec en tête son secrétaire général. Alors que on s'attendait beaucoup plus peut-être à apporter des preuves, notamment sur les accusations portées par rapport à la France qui est intervenue ou dont le Mali disait qu'il avait assez de preuves. Mais en lieu et place, on a plutôt eu affaire à une tribune d'interpellation, mais beaucoup de violence dans les propos et ça, c'est un peu dommage à mon sens.
Des propos violents que vous trouvez dommageables, le Premier ministre malien par intérim a traité le président nigérien d'étranger au Niger, la France de junte au service de l'obscurantisme. Alors, au plan diplomatique, quelles pourraient être les conséquences de telles paroles ?
Alors, de pareilles circonstances, les États incriminés ou visés peuvent, dans un premier temps, en utilisant l'outil de la communication diplomatique, exprimer leur mécontentement en essayant d'appeler d'abord, pour rappel, leur ambassadeur qui se trouve dans le pays, en l'occurrence le Mali, aux consultations. Ça peut aller jusqu'à aller réduire le niveau de communication avec cet État. On peut, si c'est un ambassadeur, on peut le rappeler et puis après on aura un chargé d'affaires Haï, voilà, se poser comme un intérimaire, tout ça pour montrer qu'on n'est pas content. Après, ça peut évoluer, l'escalade, si ça continue, et ils peuvent avoir ce qu'on appelle des mesures de rétention, hein, c'est-à-dire appliquer avec l'État en question un certain nombre de mesures qui pourraient amener cet État à réviser une certaine posture par rapport à... Mais je pense que le Mali, en s'engageant dans cette voie, a certainement pris la mesure de toutes les conséquences et il devrait pouvoir, je veux dire, assumer.
Le Mali devrait pouvoir assumer ses propos. À votre avis, pensez-vous que cette posture prise par le Mali sur le plan diplomatique, à travers un discours exigeant, entre autres, une certaine réciprocité, est de nature à fédérer ou peut-elle prospérer?
Dans une analyse froide, je dirais que le Mali ouvre plusieurs fronts. Surtout que c'est un État qui est dans une situation sécuritaire assez difficile. En interne, il y a d'autres défis à relever, les questions de gouvernance économique. Et ça, déjà en temps normal, c'est pas évident pour des États comme le Mali. Quand on regarde tout cela et que on est dans une communauté régionale avec d'autres partenaires, notamment des voisins, le Niger et la Côte d'Ivoire, par exemple, pour citer le dernier qui compte au niveau de la région, eu égard à son poids aussi diplomatique et économique, on devrait regarder beaucoup plus les conditions que les causes réelles. Parce que, après tout, les populations sont celles-là qui vont en pâtir le plus. Et aujourd'hui, un État ne peut pas vivre en autarcie, même s'il y a, comme je l'ai dit, un certain nombre de partenaires qui vous permettent de vous aider. Donc, se braquer contre un certain nombre de partenaires. C'est vrai aujourd'hui, le niveau d'escalade avec la France qui est le partenaire traditionnel, même si il y a un changement vers un autre partenaire, la Russie pour ne pas la nommer, peut exposer le Mali.
En attendant et en espérant que la tension baisse, pour terminer, finalement, quelle image de l'Afrique en général et de l'Ouest en particulier le Mali montre aux yeux du monde?
Les autorités estiment qu'elles sont aujourd'hui dans cette situation de réorienter leur positionnement au niveau non seulement de la région mais au niveau international en ayant des rapports de plus en plus décomplexés vis-à-vis de la puissance coloniale, mais aussi de revoir avec un certain nombre de partenaires un certain nombre de rapports également décomplexés, je pense notamment à la Côte d'Ivoire. Bien sûr, on voit aussi une image au niveau de l'Afrique d'un État qui, de plus en plus, se revendique être souverainiste et qui n'entend pas marchander sa gouvernance avec les autres partenaires. Il exige du respect. En tout cas, c'est le discours officiel qui est tenu et qui fait écho au sein d'une certaine opinion au niveau du Mali, qui, bien sûr, sont très heureux de voir les autorités de la transition aller dans ce sens.
Paul Oumarou Koualaga, merci.
Merci, Madame Yoda.
C'était l'invité de la rédaction.
Voilà, ici donc sur FM, ce journal réalisé par Edwige Tindrebeoukou, retransmis au web par Ibrahim Niaouné, Denise Ourana au micro. Et ce proverbe qui se veut un conseil pour terminer, mieux vaut une amère vérité qu'un doux mensonge. Excellente journée.
Radio Omega, l'info en direct.